Il est 7h.
C'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et j'espère vraiment que dans le futur, une expérience comme celle-ci permettra l'exploration humaine sur Mars.
On a produit de l'oxygène sur Mars. Nouvelle prouesse du rover Perseverance qui a réussi à transformer l'atmosphère de la planète rouge en quelque chose de respirable. Ça change tout pour les futures missions humaines. Un cran de plus franchi dans la violence à Tourcoing. Un policier visé par des tirs de mortier. Chez lui, il porte plainte. Dans ce journal également, quel protocole annoncé ce soir pour le retour à l'école lundi. Notre dossier sur la formation des soignants pour mieux détecter la maltraitance des enfants. Et puis des centaines d'arrestations en Russie lors de nouvelles manifestations de soutien à Alexei Navalny. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin.
Et je vous parle des grandes banques mondiales qui s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique.
C'est la journée de la Terre, suivie du regard international de Vincent Hervouette, de l'édito sport de Virginie Fulpin.
Julien Alaphilippe a un don, en plus du cyclisme, celui de nous redonner le sourire en gagnant la Flèche Wallonne.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Perseverance nous faisait parvenir le premier son jamais capté de la planète Mars. Aujourd'hui, le robot de la NASA a réussi à le rendre respirable, ce vent martien. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour.
C'est une prouesse sans précédent. La NASA, Perseverance, savent désormais transformer le dioxyde de carbone de l'atmosphère de la planète rouge en oxygène. Et c'est un pas de géant pour une future mission humaine.
Oui, avancée exceptionnelle. Une première mondiale qui, à terme, va permettre de ne pas avoir à transporter des tonnes de bouteilles d'oxygène à bord des navettes, mais d'utiliser les ressources de Mars pour y rester aussi longtemps qu'on le veut. Cette technologie a été mise au point par les ingénieurs de la NASA, parmi lesquels Assad Aboubakar, qui nous explique le processus de conversion.
Ce tube sur le rover sert de filtre. Il récupère le CO2 à l'extérieur, le gaz va dans une pompe qu'il compresse, puis dans un système électrique qui le convertit en oxygène. C'est vraiment une grande fierté de faire partie de ce projet. Vous savez, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et j'espère vraiment que dans le futur, une expérience comme celle-ci permettra l'exploration humaine sur Mars.
Alors aujourd'hui, ce ne sont que 5 petits grammes d'oxygène qui ont été produits, mais avec ça, un astronaute peut déjà respirer 10 minutes. Et à titre d'exemple, Théo, deux astronautes vivants et travaillant sur Mars auraient besoin d'à peu près une tonne d'oxygène pour tenir une année entière. Utiliser donc les ressources de Mars permettrait d'y rester longtemps, ce qui est nécessaire évidemment pour une éventuelle exploration humaine de la planète rouge à terme.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Mais ce n'est pas parce que l'idée d'aller vivre sur Mars nous paraît ce matin un peu moins improbable qu'il faut abandonner notre bonne vieille Terre. Sommet mondial sur le climat aujourd'hui, en cette journée de la Terre. Les États-Unis doivent notamment dévoiler leur nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous l'impulsion de Joe Biden.
Et si on est encore loin, très loin des objectifs de la COP21 pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il y a quand même des chiffres qui vont dans le bon sens. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Les efforts se sont accrus ces dernières années pour protéger la biodiversité.
Oui, et l'on commence par le chiffre 7. 7 nouveaux sites français viennent d'être ajoutés à la liste des sites protégés établis par l'Union internationale pour la conservation de la nature. On trouve notamment dans cette liste la réserve des Contamines Montjoie, les marais des Basses-Vallées de l'Essonne, la réserve de la Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône. Notre pays compte donc désormais 22 sites protégés sur une liste de 59 dans le monde. C'est plus du tiers, on s'en sort bien. Et la France est aussi championne des aires marines protégées. Il y en a sur 20% du territoire maritime et une étude internationale a confirmé la semaine dernière que ces espaces favorisent effectivement la reconstitution des populations de poissons.
Alors voilà pour la terre et la mer. Anne Le Gall, concernant l'air, là aussi il y a des tendances positives ?
Oui, Santé publique France a annoncé il y a quelques jours que la baisse de l'exposition aux particules fines a permis d'éviter en 2020 la mort de 2300 personnes. Alors oui, c'était exceptionnel. Oui, c'était lié au confinement, à la circulation ralentie, aux usines à l'arrêt. Il n'empêche, cela témoigne de l'impact rapide de nos changements de comportement. En 2020, les émissions mondiales de CO2 ont ainsi chuté de 7% et celles des États-Unis de 12%. Alors pour que cela soit durable dans le temps, il faut évidemment réduire le recours aux énergies fossiles, mais selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables devraient devenir en 2025 la première source de production d'électricité au niveau mondial. Un tiers de notre électricité proviendra alors des panneaux solaires, des usines hydroélectriques, des éoliennes ou des biocarburants.
Voilà, nos actions ont un impact quand on s'y met. Anne Le Gall pour Europe 1.
7h05 à la une également ce matin. C'est clairement une nouvelle étape qui a été franchie dans la violence à Tourcoing.
Après plusieurs jours de heurts dans le quartier de la Croix-Rouge, c'est cette fois-ci le domicile d'un policier qui a été visé par des tirs de feu d'artifice. 5 fusées lancées, heureusement sans faire de blessés. Le fonctionnaire a porté plainte. Lionel Gougelot.
Habitant de ce quartier de Tourcoing depuis plusieurs années, mais en poste au commissariat de Roubaix, le policier était en repos en famille hier après-midi quand il a entendu le bruit de 3 mortiers d'artifice percuter la façade de sa maison. En sortant sur le pas de sa porte, il a été visé par 2 autres fusées qu'il a pu éviter de justesse. Heureusement, pas de blessés, mais un fonctionnaire ciblé à son domicile parce que policier, voilà une étape supplémentaire dans la violence particulièrement inquiétante selon Benoît Aristidou, représentant local du syndicat SGP Unité Police.
Si on vient carrément chercher les forces de l'ordre à leur domicile, ça risque de très mal se passer parce que forcément, en face, il y a quand même des familles. On est là pour défendre les citoyens, on n'est pas là pour se faire attaquer chez soi. En dehors de notre vie professionnelle qui est déjà très compliquée, si en plus on n'est pas serein chez soi, forcément ça fait peur. Puis forcément, on a une famille aussi à protéger.
La vidéosurveillance et des images circulant sur certains réseaux sociaux permettront peut-être d'identifier les auteurs qui sont activement recherchés. En attendant, une protection policière a été mise en place autour du domicile du fonctionnaire. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pendant ce temps, le verdict rendu ce week-end dans l'agression des policiers brûlés à Viry-Châtillon continue de faire réagir. 3 des condamnés à 18 ans de prison vont se pourvoir en cassation, comme vous le révélait Europe 1 dès hier soir. Ils dénoncent des procès-verbaux tronqués en leur défaveur par les policiers. Le directeur général de la police nationale martèle ce matin son soutien aux enquêteurs.
Au volet sanitaire, on connaîtra ce soir le protocole mis en place dans les écoles pour la rentrée. C'est dans 4 jours.
Jean-Michel Blanquer le détaillera ce soir en conférence de presse aux côtés du Premier ministre. On s'oriente vers une fermeture de classe dès le premier cas de Covid détecté, non plus à partir de 3. Les enseignants sont rassurés, pas les chefs d'établissement que représente Philippe Vincent.
Il est évident que si on était sur un cas, une fermeture, on passerait sans doute de 1000 fermetures à 2000, à 3000, à 5000, voire à 8000, comme on l'a connu avant la période de vacances. Donc, il est évident que l'application de cette mesure aurait un effet multiplicateur très important. Les élèves se retrouvent isolés à la maison de 7 à 10 jours, ça dépendra sur quel protocole on pourrait être. Et donc, il faut mettre en place une espèce de continuité pédagogique adaptée à la classe, ce qui est encore très compliqué, puisqu'évidemment, on peut avoir un établissement qui fonctionne, je dirais, de manière quasi normale, et puis devoir mettre en place de l'enseignement à distance pour un ou plusieurs groupes isolés, parce que le cas a été confirmé.
Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement, il répondait à Yasmina Katou.
Et pour le reste, l'exécutif maintient l'objectif d'alléger progressivement le confinement à partir du mois prochain, même si l'épidémie ne recule pas de manière significative.
Fini l'attestation et la limite des 10 km. À partir du lundi 3 mai, les terrasses et lieux de culture devraient bien rouvrir autour du 15 avec des jauges réduites. Emmanuel Macron présentera lui-même les modalités d'ici une dizaine de jours. Enfin, concernant les vaccins, Pfizer confirme que des doses suspectes de son sérum saisi au Mexique et en Pologne étaient bien des contrefaçons de faux vaccins anti-Covid vendus jusqu'à 1 000 $ l'unité. 80 personnes auraient reçu une injection. Apparemment sans danger, mais totalement inefficace.
7h09 sur Europe 1. C'est un autre enjeu de santé publique sur lequel on s'arrête ce matin. Un enjeu qui concerne les enfants directement. Comment mieux détecter les cas de maltraitance?
Bien souvent, ces cas passent inaperçus, y compris à l'hôpital. On vous emmène ce matin au sein des toutes nouvelles cellules dédiées qui commencent à se déployer dans 7 hôpitaux pilotes pour aider les soignants à distinguer le simple bobo des véritables traces de coups. Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour.
1 enfant sur 10 victime de maltraitance en France, mais qui passe encore inaperçu même auprès des professionnels de santé.
Oui, prenons l'exemple des hôpitaux pédiatriques parisiens. 25 000 enfants victimes de maltraitance passeraient chaque année par les urgences. Et dans ce flot de jeunes patients, les médecins ne détectent que 2% des cas, tout simplement parce que tous n'ont pas été formés. Céline Gréco de l'hôpital Necker a donc créé des unités spécifiques pour venir en aide à toutes ces professions.
Moi, petite, j'ai été victime de maltraitance et j'ai attendu plus de 10 ans pour que quelqu'un repère qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, j'ai fait des études de médecine et j'ai vu les failles du système en tant que médecin. C'est-à-dire, moi, j'ai eu 1 heure de cours dans toutes mes études de médecine sur la maltraitance.
Alors Zoé, ces nouvelles unités qui rassemblent des psychologues, des généralistes et des pédiatres, elles doivent permettre de remédier à ce manque de formation. Vous avez pu entrer dans l'une d'entre elles, à l'hôpital Trousseau, à Paris. On écoute votre reportage.
Un bleu caché sous plusieurs couches de vêtements, une rougeur qui dessine sur la peau la forme d'une main, il y a des blessures qui ne trompent pas. Pourtant, ces indices de maltraitance, l'urgentiste Nathalie de Surmain ne savait pas les déceler.
Évidemment que j'ai laissé passer des cas. C'est compliqué, au niveau de la charge émotionnelle, c'est plus facile de fermer les yeux. Donc c'est bien de ne pas rester seule et en discuter à deux.
Désormais, elle s'autorise le doute et consulte la pédiatre Solène Loski, référente de la nouvelle unité de protection de l'enfance.
Bonjour Nathalie,
bonjour Solène.
Ça va ?
Je t'ai appelée parce que j'ai un souci avec un enfant de 4 mois qui avait un hématome.
D'accord. Alors, du coup, 4 mois, c'est important puisque un enfant qui ne se déplace pas tout seul ne peut pas se faire d'hématome. Hein. Il va falloir se poser la question.
Oui. Ok.
Dans quelques semaines, les médecins libéraux, eux aussi, pourront faire appel à l'équipe de la pédiatre. Objectif, faire que dépister la maltraitance devienne un réflexe pour tous les professionnels de l'enfance.
Si on ne se pose pas la question de la maltraitance, on ne va pas aller chercher les fractures sous-jacentes, les hémorragies intracrâniennes parce que le bébé a été secoué, tout ça.
Et ces spécialistes le savent, s'ils arrivent à détecter les risques de violence assez tôt, toute une batterie de suivi, psy, social, médical, permettra aux enfants de rester dans leur famille.
Un enfant sur 10 victime de maltraitance en France, 2% seulement des cas détectés à l'hôpital. Immersion dans ces nouvelles cellules pilotes pour aider à la détection. Dossier signé Zoé Pallier pour Europe 1. À l'étranger, Joe Biden s'apprête à reconnaître l'existence du génocide arménien. Il deviendrait le premier président américain à le faire au risque de tendre ses relations avec la Turquie. Annonce attendue dans 2 jours pour la date commémorative du début des massacres.
Tandis qu'en Russie, près de 1500 personnes ont été arrêtées hier soir lors de manifestations de soutien à Alexei Navalny.
Des cortèges dans une centaine de villes, dont la capitale Moscou, où se trouve notre correspondant Paul Gogo.
Plus de 6000 personnes ont répondu à l'appel des proches d'Alexei Navalny mercredi soir dans le centre de Moscou avec une volonté commune, celle de ne pas voir l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine mourir en prison. Pendant 2 heures, les manifestants ont pu défiler, une fois n'est pas coutume, sans subir les foudres de la police anti-émeute. Irina et Xenia, la vingtaine, ont profité de l'occasion pour se fondre dans la masse.
Ce qui se passe, c'est qu'un homme se retrouve en prison et va peut-être mourir pour ce qu'il a dit. Je ne veux pas que ce genre de choses arrive.
Une police passive à Moscou, mais 1500 personnes ont tout de même été arrêtées mercredi dans plus de 100 manifestations, de Kaliningrad à Vladivostok. Slava, la cinquantaine, a peur du pouvoir mais compte continuer à manifester. En se faufilant dans une sortie de métro, il s'écrie « On reviendra ».
Je reviendrai jusqu'à ce qu'on change ce régime, que je ne supporte pas. Ce n'est pas à propos de Navalny, c'est une question de changement.
L'ONU a exigé de la Russie qu'elle permette à l'opposant de se faire soigner à l'étranger. Une requête laissée sans réponse par les autorités russes. Moscou, Paul Gogo, Europe 1.
Enfin, dernier mot de football, Monaco et le PSG rejoignent les demi-finales de la Coupe de France. Paris n'a fait qu'une bougée d'Angers hier soir, 5-0. Victoire rouleuse de Monaco à Lyon, 2-0. Et il se trouve que l'arbitre de cette rencontre, Stéphanie Frappard, va devenir la première femme à arbitrer lors de l'Euro masculin. Elle a été retenue pour la compétition cet été par l'UEFA.
Retenez bien son nom, Stéphanie Frappard. Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.